Vous écoutez On lit pour vous.
Pour un héritage, quelle est la différence entre un exécuteur et un liquidateur de succession? Un texte de Gérard Pérubé, paru le 15 décembre 2025 dans Le Devoir. Ce texte est la réponse à la question d'une lectrice, Joanne Berger, envoyée à l'équipe du Courrier de l'économie. Quelle est la différence entre liquidateur et exécuteur? Est-ce que l'exécuteur d'un testament peut simplement renoncer à son obligation? Ou il doit absolument nommer une autre personne? Qu'arrive-t-il si le défunt possède des propriétés dans deux provinces? Voici ce qu'on peut retrouver sur le site de l'Office québécois de la langue française. Au Québec, depuis l'entrée en vigueur du Code civil du Québec en janvier 1994, le terme « liquidateur de la succession » remplace les termes « exécuteur testamentaire » et « administrateur de succession » ainsi que le terme « administrateur du bien d'autrui » lorsque celui-ci est employé pour désigner une personne qui est chargée de régler une succession. La notion de liquidateur de succession est donc particulière au Québec. Ailleurs au Canada, on recourra aux termes exécuteur testamentaire et administrateur de succession, aussi appelé fiduciaire, en Ontario. Cette nuance étant, comme on peut le lire dans la documentation du gouvernement québécois portant sur la succession, qu'un liquidateur désigné n'est pas obligé d'accepter cette charge, à moins qu'il ne soit le seul héritier. Aucun motif de refus n'est requis. Mais il doit aviser les héritiers par écrit s'ils démissionnent, précise Maître Michel Beauchamp, associé au cabinet de Grand Pré Chais. En l'absence d'un liquidateur désigné, ce sont les héritiers qui joueront ce rôle. Ces héritiers liquidateurs peuvent, entre eux, se désigner pour certaines tâches précises, mais cela nécessite un mandat. Malgré la délégation de certaines tâches, les héritiers liquidateurs demeurent responsables, prend toutefois soin de préciser le notaire émérite. La charge de liquidateur, comme une succession, est indivisible. À défaut d'entente entre les héritiers sur la nomination d'un liquidateur, le tribunal peut en désigner un. Loi provinciale. Quant au troisième élément de la question de notre lectrice, précisons que les lois régissant les successions au Canada sont provinciales, sauf exception. D'entrée de jeu, la succession sera administrée conformément aux lois en vigueur dans la province de résidence. La loi applicable à la succession sera la loi du dernier domicile du défunt, précise Maître Beauchamp. Cela dit, tout bien immobilier composant la succession sera toutefois assujetti aux lois provinciales là où l'immeuble est situé. Une homologation est alors presque toujours nécessaire pour transférer le titre de propriété, explique Fiduciary Trust Canada sur son site. En outre, comme le droit successoral est de compétence provinciale, certaines administrations voient la transition de la richesse comme une occasion de générer des recettes fiscales. Elles le font en imposant un supplément sur la valeur d'une succession lorsque le tribunal provincial délivre un document juridique officiel, soit la lettre d'homologation ou certificat de nomination en Ontario. Maître Beauchamp ajoute « Heureusement, ces frais ou impôts n'existent pas au Québec. Le cas échéant, ces frais peuvent être évités en recourant à des montages empruntant à des structures juridiques comme la copropriété indivise ou les fiducies. Mais ces montages peuvent comporter une incidence fiscale parfois supérieure aux frais. Bref, on parle ici d'une planification successorale pouvant être sophistiquée afin de tenir compte des spécificités légales et fiscales de chaque gouvernement, ce qui invite à recourir aux services et conseils d'un professionnel. C'était « Pour un héritage, quelle est la différence entre un exécuteur et un liquidateur de succession ?» un texte de Gérard Birubé, paru le 15 décembre 2025 dans Le Devoir.
Vers une autre année record pour Bixi, un texte de Jeanne Corriveau, paru dans Le Devoir du 8 décembre 2025. Bixi se dirige vers une autre année record. Le service de vélo en libre-service devrait franchir le cap des 14,5 millions de déplacements enregistrés au cours de 2025 dans les 13 villes où il est implanté, soit une hausse de 9 % par rapport à 2024. Le service lancé en 2009 à Montréal continue de battre des records et sa progression ne semble pas vouloir ralentir. Entre 2021 et 2025, le nombre d'utilisateurs est passé de 250 000 à 700 000 et le nombre de stations de 750 à 1100. Bixi est maintenant disponible dans 13 villes québécoises et dans les 19 arrondissements montréalais. Le mois de juillet 2025 a été le plus occupé avec 2,3 millions de déplacements dans les 13 villes où il est déployé. C'est pendant la première grève à la STM qui s'est déroulée du 9 au 17 juin 2025 que Bixi a atteint un sommet d'achalandage à Montréal avec 98 000 déplacements dans la journée du 11 juin 2025. Selon Pierre-Luc Marié, directeur du marketing de Bixi Montréal, ce fut l'occasion pour les néophytes de découvrir le service. Citation: « On n'a pas d'études parfaites, mais on estime qu'entre 20 000 et 30 000 Montréalais ont, pour la première fois, fait du Bixi à cause de la grève », indique-t-il. Fin de citation. Les grèves suivantes, notamment celles d'octobre et de novembre, ont eu un impact moins tangible. Chez Bixi, on croit que les usagers des transports en commun étaient mieux préparés aux interruptions de service et que la météo peu clémente les a moins incités à opter pour le vélo. Expansion calquée sur le REM. Bixi n'entend pas ralentir la cadence d'expansion en 2026, même si pour l'instant, l'organisme à but non lucratif demeure discret sur les territoires à conquérir. M. Marié mentionne l'ajout potentiel de 5 à 6 villes québécoises pour 2026. En juillet 2025, Bixi s'était notamment implanté à Deux-Montagnes et à Saint-Eustache, ce qui coïncidait avec l'arrivée du réseau express métropolitain, le REM. Citation: tout ça a été pensé, planifié. Et cette planification permettra également à Bixi de s'étendre vers l'ouest de l'île de Montréal, dit-il. Fin de citation. Rappelons qu'au printemps prochain, CPDQ Infra prévoit inaugurer la branche du REM jusqu'à Lens-Alorme. Innovation. Au fil des ans, Bixi a aussi ajouté des cordes à son arc. En 2019, les premiers vélos à assistance électrique ont fait leur apparition dans le réseau. Aujourd'hui, ils représentent le quart de la flotte. Citation: ça a eu un impact incroyable parce qu'on peut aller plus loin, plus vite et faire plus de longues distances. Fin de citation. Ces vélos électriques sont aussi munis de GPS qui permettent à l'organisation de les suivre à la trace. Citation: à l'Université de Montréal et à l'hôpital Sainte-Justine, en haut de la montagne, le matin de semaine, 75 % des vélos qui arrivent sont des vélos à assistance électrique, alors qu'ils représentent seulement 25 % de la flotte. Ça montre que les gens montent les côtes. Fin de citation. Depuis juillet 2025, Bixi a aussi déployé une cinquantaine de remorques compatibles avec les bornes et qui peuvent s'attacher autant aux vélos de Bixi qu'aux vélos des particuliers. D'autres équipements pourraient être rendus disponibles dans les prochaines années, comme des remorques de dimensions différentes et des remorques cargo. Mais pour l'instant, pas question d'introduire des vélos de plus petite taille pour les enfants, par exemple, soutient M. Marié. Le développement de l'application mobile a aussi facilité l'accès aux services. Citation, en 2021, 25% des déplacements débutaient avec l'application. Maintenant, c'est 95%, précise M. Marié. Les honneurs. En octobre 2025, Bixi s'était retrouvé dans le prestigieux palmarès des 25 meilleures inventions des 25 dernières années du magazine Time, aux côtés de l'iPhone, YouTube, Tesla et ChatGPT. Pourtant, Bixi n'était pas le pionnier du vélo partage. Quand le service fut officiellement lancé en 2009, Vélib était déjà en activité depuis 2 ans à Paris et d'autres villes européennes s'étaient dotées de services similaires. Selon le Times, toutefois, Bixi a révolutionné le domaine avec son succès « fulgurant » entre guillemets et son recours à la technologie pour créer des vélos résistants aux caprices du climat et des stations alimentées par l'énergie solaire faciles à déplacer. Après les premières années difficiles et la faillite de la société de vélos en libre-service, il y a 11 ans, le service géré depuis 2014 par Bixi Montréal se maintient désormais en équilibre financier. Une part de 70% de son financement provient des usagers, 15% des commanditaires et 15% des villes par l'entremise des frais de fonctionnement. C'était « Vers une autre année record pour Bixi », un texte de Jeanne Corriveau, paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir.
Quand les chiffres tuent les soins. Un texte de Pierre Beaupré, paru le 5 janvier 2026 dans Le Devoir. Oui, il faut gérer et améliorer notre système, mais cela exige un changement de culture. L'année 2025 aura été difficile pour notre système de santé. Départ important de médecins, démissions successives des ministres Lionel Carman et Christian Dubé. Au cœur de ces déboires, un désaccord fondamental sur les indicateurs de performance et les moyens de les atteindre. Les gestionnaires répètent un mantra apparemment évident. On ne peut améliorer ce qu'on ne mesure pas. Appliqué à la santé, ce dogme devient absurde. Selon cette logique, vous n'améliorerez pas votre santé en adoptant simplement une diète méditerranéenne et en bougeant plus. Il vous faudrait d'abord une montre GPS, puis calculer méticuleusement vos calories, vitamines et nutriments pour gérer votre santé. Le problème est bien connu. On finit par gérer ce qu'on peut facilement mesurer en délaissant l'essentiel. Compter les patients vus en 4 heures est simple. Mais comment mesurer la compétence d'un soignant, la sécurité des soins prodigués, la qualité de l'écoute et du conseil? C'est comme prétendre qu'il est plus facile de gérer sa santé avec des chips, dont tous les nutriments sont inscrits sur le sac, qu'avec des fruits et légumes. Face à la complexité de la santé, la tentation est de tout découper en petites parties mesurables, puis de recoller ces fragments en espérant reconstituer une personne. Un roman célèbre raconte l'histoire d'un scientifique qui a déjà tenté l'expérience. Il s'appelait Frankenstein. Après 3 décennies dans l'enseignement médical,
Je constate que la compétence s'observe bien plus facilement qu'elle ne se mesure. Notre système top-down, ultra-centralisé, confie les décisions à des gestionnaires généralement éloignés des soins et ignorant des réalités variables selon les régions. Privés d'observation directe, ils se rabattent sur des statistiques qui deviennent leur seule réalité. Cette obsession chiffrable détourne des budgets massifs vers des armées de fonctionnaires produisant des données plutôt que vers les soignants qui servent la population. En 1956, déjà, le chercheur V.F. Ridgway publiait un article sur les conséquences dysfonctionnelles des mesures de performance. Près de 70 ans plus tard, difficile d'imaginer que le ministère et Santé Québec, créé précisément sur le concept d'indicateur de performance, fasse marche arrière. On peut néanmoins espérer que la nouvelle ministre, grâce à son expérience comme soignante, ait développé une vision du système de santé qui dépasse une simple série d'indicateurs. Oui, il faut gérer et améliorer notre système. Mais cela exige un changement de culture axé sur la compétence clinique, la sécurité des soins, la bienveillance et la performance globale et multidisciplinaire, tous des concepts difficiles à mesurer, justement. C'était « Quand les chiffres tuent les soins », un texte de Pierre Beaupré paru le 5 janvier 2026 dans Le Devoir.
Un jeune adulte sur quatre a pensé au suicide en Atlantique selon une étude. Un texte de Pascal Savoie-Brideau, publié le 21 décembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Le carrefour de données sur la santé mentale des jeunes, un outil en ligne de Green Shield, développé en collaboration avec Recherche en santé mentale Canada, RSMC, présente des tendances inquiétantes en Atlantique en termes d'idéation suicidaire chez les 16 à 24 ans. Une personne sur quatre, 25 % d'un échantillon de 456 individus des quatre provinces de ce groupe d'âge, a déclaré avoir eu des pensées suicidaires au cours de l'année écoulée, selon des données mises à jour en novembre 2025. Parmi eux, 7 % ont dit qu'ils avaient un plan. Ce n'est pas un énorme échantillon, mais c'est quand même significatif. C'est sûr et certain, commente Eve Arsenault, psychologue et propriétaire du centre Mind at Peace Center Mieux-être à Bathurst. Cette clinique multidisciplinaire dans le nord du Nouveau-Brunswick offre du soutien aux personnes vivant diverses difficultés psychologiques, notamment de l'anxiété, de la dépression, des traumatismes ou un deuil. La détresse chez les jeunes est plus élevée d'année en année, note Eve Arsenault. Dans les 10 dernières années, ça se dégrade énormément. L'anxiété et la dépression sont beaucoup plus élevées. Les pensées suicidaires sont probablement plus fréquentes aussi. Qu'est-ce qui a changé dans les 10 dernières années? Bien, c'est la technologie. RSMC cible aussi le temps excessif passé devant les écrans comme l'un des facteurs principaux pouvant mener à l'idéation suicidaire. Le jeu compulsif, le temps passé devant les écrans et l'appartenance à la communauté LGBTQ+, sont des éléments que nous avons publiquement mentionnés dans nos rapports comme étant à l'origine d'un taux plus élevé d'idées suicidaires, note Michael Cooper, vice-président des données et des partenariats de RSMC. Il explique que la collecte de ces informations sur la santé mentale des jeunes a initialement été lancée et financée par Santé Canada en mars 2020, soit en début de pandémie, afin de permettre un suivi des indicateurs de santé mentale au pays. Perspective sombre du futur. Un autre sondage de RSMC, publié en novembre, intitulé « A Generation Under Pressure, Economic and Employment Challenges on Youth Mental Health », révèle que les pressions financières et l'instabilité économique actuelle ont des répercussions mesurables sur la santé mentale des adolescents et jeunes adultes. Cette partie du sondage cible 2213 Canadiens âgés de 16 à 29 ans. En Atlantique, c'est 22 % des répondants qui disent avoir une perspective négative ou très négative quant à leur avenir professionnel. C'est le résultat le plus pessimiste au pays. Dès que tu t'en vas au collège, à l'université ou sur le marché du travail, c'est sûr que le facteur socio-économique est très difficile en ce moment. Les jeunes veulent sortir de chez leurs parents, mais se louer un appartement, s'acheter une maison, c'est presque impossible, note Eve Arsenault. Les logements sont quand même très coûteux et la nourriture est extrêmement chère. Pour les jeunes adultes avec des relations familiales plus tendues, cela ajoute à la détresse car le saut vers l'indépendance devient encore plus difficile sans le soutien, poursuit-elle. Des défis en région, mais de l'aide en ligne. Les données du sondage « A Generation Under Pressure, Economic and Employment Challenges on Youth Mental Health » indiquent également que seuls 47 % des répondants issus de l'Atlantique disent avoir trouvé l'accès nécessaire en soutien en santé mentale lorsqu'ils en avaient besoin. Une réalité qui ne surprend pas Eve Arsenault, notamment en raison du manque de personnel et des longues listes d'attente en région rurale. Des psychologues, des travailleurs sociaux, si on regarde juste au Nouveau-Brunswick, il en manque énormément. Il n'en sort pas beaucoup dans les universités, et les universités manquent de milieux de stage, donc c'est comme un cercle vicieux, explique-t-elle. Si des améliorations restent à faire dans le secteur, ce n'est pas faute de vouloir. Je pense que le gouvernement, tous les professionnels de la santé, en public ou en privé, travaillent fort là-dessus, mais je pense qu'il manque encore de professionnels, dit-elle. Parallèlement, le carrefour de données sur la santé mentale des jeunes offre depuis la mi-novembre de nouvelles ressources gratuites en ligne, pour les 15 à 29 ans ayant besoin de soutien en santé mentale. Il serait plus d'un million au pays. Dans le lot des ressources offertes, on y trouve le jumelage avec le professionnel et abonnement gratuit d'un an à la thérapie cognitivo-comportementale en ligne. C'était un jeune adulte sur quatre à penser au suicide en Atlantique, selon une étude, un texte de Pascal Savoie-Brideau, publié le 21 décembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Passé autochtone, inauguration d'un parcours d'apprentissage immersif en pleine nature, un texte de Venant Chimiumurua, publié le 6 janvier 2026 sur le site de Radio-Canada. L'Université Lakehead lance une expérience d'apprentissage immersive en pleine nature, invitant la communauté du campus à la marche, à l'écoute et à la réflexion sur la richesse culturelle et historique des terres de Thunder Bay. Baptisée Ichuapmuk Bimoseng, la marche du double regard, cette activité guidée de 90 minutes fait le pont entre les savoirs autochtones et les systèmes de connaissances occidentaux. Elle est animée par Joe Duncan, spécialiste du contenu autochtone, et Rachel Portinga, coordonnatrice par intérim du Bureau de la durabilité. Cette marche incarne d'une manière inédite la reconnaissance du territoire de Lakehead, déclare M. Duncan.
nous mettons en lumière la profondeur historique et culturelle de ces terres occupées par les peuples autochtones depuis plus de 9000 ans. À ce jour, plus de 60 personnes issues de toute la communauté universitaire ont pris part à cette marche. Le parcours débute du lac Tamblyn, longe la rivière McIntyre et s'arrête à la tente de sudation du campus. En chemin, les participants font escale sur plusieurs des 14 sites archéologiques répertoriés, notamment des carrières de taconique jaspé et des zones riches en cuivre. Ils ont l'occasion d'y examiner des artefacts, tels que des pointes de flèches en taconite, des pépites et des couteaux de cuivre, ainsi que des outils en bois de serre. Joe Duncan explique que cette marche immersive permet de comprendre la symbiose entre les peuples autochtones et la terre. Nous relatons l'histoire de ceux qui occupaient cette région il y a 9000 ans en croisant les regards occidentaux et autochtones, affirme-t-il. En montrant comment les populations subsistaient sur le site actuel de l'Université Lakehead, le parcours lie ce passé ancestral aux réalités de la colonisation et trace une voie vers l'avenir. La marche du double regard. Le principe du double regard sert de fil conducteur en mariant les forces des savoirs autochtones et occidentaux. Au cours de la visite, nous présentons les médecines traditionnelles et leurs usages ancestraux, tout en les mettant en parallèle avec la science moderne pour démontrer leur complémentarité, explique M. Duncan. Ainsi, les participants s'exercent à identifier des plantes locales, telles que le guizik, cèdre, tout en découvrant les recherches scientifiques qui en confirment les propriétés détoxifiantes et anti-inflammatoires. Le parcours aborde enfin les réalités de la colonisation, examinant l'impact du rapport des commissaires de 1849 sur le traité Robinson supérieur et les séquelles du système des pensionnats. Selon Rachel Portinga, la structure de la marche permet de saisir le contraste entre des millénaires d'épanouissement autochtone et les ruptures engendrées par les politiques coloniales. La marche s'appuie sur les travaux lancés il y a 6 ans au sein du Bureau de la durabilité. La première marche s'est déroulée en septembre et les retours ont été extrêmement positifs, affirme Joe Duncan. Plus de 60 personnes ont participé à cette tournée jusqu'à présent et 170 étudiants sont inscrits pour la faire lorsqu'elle reprendra en mars. Vers une pérennisation. La stagiaire au Bureau de la durabilité, Carolina Camacho, annonce l'extension de l'initiative. Nous voulons l'étoffer, intégrer les retours et en faire un processus continu. L'objectif est de l'ancrer durablement, affirme-t-elle. Carolina Camacho évoque à ce sujet un plan à long terme incluant des supports numériques et imprimés, une meilleure accessibilité et le programme Former les formateurs visant à autonomiser davantage d'étudiants autochtones pour qu'ils puissent mener les futures marches. C'était Passé autochtone, inauguration d'un parcours d'apprentissage immersif en pleine nature, un texte de Venant Nchimiumurwa, publié le 6 janvier 2026 sur le site de Radio-Canada.